pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Le réchauffement climatique. Ce qui menace nos agriculteurs, c'est ça. C'est quoi les réponses qui sont apportées là-dessus? Accaparement de l'eau par des méga-bassines pour quelques grands irrigants, plutôt que de changer des pratiques et moins irriguer, ou s'orienter vers d'autres types d'activités. Rien n'est mis en œuvre concrètement et opérationnellement là-dessus.
Août 2025, Charles Fournier, député écologiste d'Indre-et-Loire.
Évidemment, nous, on va déposer une proposition d'abrogation de la loi du plomb, parce qu'il n'y a rien de bon dans la loi du plomb, il n'y a rien de bon. Deux tiers des amendements en matière d'agriculture qui viennent de la droite et de l'extrême droite jusqu'aux macronistes viennent de la FNSEA, ont été rédigés par la FNSEA. Donc il y a une connivence là, très claire, entre certains syndicats agricoles et bon nombre de députés qui vont de la Macronie jusqu'à l'extrême droite. Il raconte qu'il veut lever les contraintes sur le métier d'agriculteur. En fait, en vrai, il veut lever les contraintes sur quelques businessmen. Ceux qui se sont accaparés les terres, qui veulent s'accaparer l'eau, qui ont des productions qui fatiguent nos sols, abîment notre air, abîment notre santé, leur modèle, à un moment donné, il est fragilisé. C'est ceux qu'on vient aider quand il y a des catastrophes. Ça prouve la puissance quand même des lobbies qui arrivent à peser sur des décideurs et parfois sur l'opinion publique quand même.
Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et la voix off.com. À nouveau en la compagnie de Charles Fournier, l'un des 38 députés du groupe écologiste, pour aujourd'hui revenir sur la loi du plomb, loi scélérate, écocidaire et mortifère, qui, au cœur de cet été 2025, a amené plus de 2 millions de personnes à signer une pétition contre ce texte qui, entre autres horreurs, prévoyait notamment le retour de l'utilisation de l'acétamipride, néonicotinoïde tueur d'abeilles et aussi dangereux pour la santé humaine. Et c'est probablement ce poison qui a fait signer tant de gens. Une mobilisation de 2 millions de signatures en plein été, c'est extraordinaire. L'entretien avec Charles Fournier qu'on vous propose maintenant s'est déroulé en deux parties, avant et après l'arrêté du Conseil constitutionnel qui n'autorise pas le retour de l'acétamipride. Mais la loi du plomb, c'est par contre feu vert aux méga-bassines, aux fermes-usines, aux lobbies des marchands de chimie. C'est le contrôle du politique sur le scientifique et sur l'Office national de la biodiversité. Tapis rouge déroulé au lobby mafieux de l'agro-industrie, sur fond de réchauffement climatique, dans un monde agricole où la nature et les humains sont exploités, lessivés, ravagés, où une masse de travailleurs et travailleuses des campagnes vivent sous le seuil de pauvreté et sont pour beaucoup éligibles au RSA. Un monde paysan en train de mourir et de disparaître, avec des anciens qui partent en retraite et des jeunes qui ne parviennent pas à s'installer au bénéfice des fermes-usines de l'agro-industrie et de leurs pratiques mortifères. C'est ça, la loi du plomb. On en parlait fin juillet 2025 avec Charles Fournier.
Bonjour Charles.
Salut, ça va ?
Je ne te répondrai pas, après tout c'est toi l'invité. Comment vas-tu, toi? Mais c'est dur en ce moment. Hein.
Ouais, c'est dur. Non, non, là, au moment où je te parle, j'ai passé 15 jours de vacances en van à crapahuter dans la montagne au Pays Basque. Donc, j'arrive après ça. Et donc, ça va. Voilà, ça va. Mais parce qu'il y a eu cette séquence-là. Mais il est vrai qu'on vient de traverser une période. Là, on a eu une apogée pendant 3 mois de textes de loi les plus infamants qu'ils soient. Enfin, je pense à la loi de simplification. Je pense à la loi Grémillet sur l'énergie. Je pense évidemment à la loi du plomb. Je pense à la loi sur l'audiovisuel. Bref, on a quand même eu toute une série. Et là, il n'y a plus rien qui est masqué. On a eu quand même le déroulé d'un schéma qui, s'il continuait comme il continue, prépare le terrain pour une extrême droite qui est à l'affût, quoi, qui n'attend que ça et finalement à qui on facilite la tâche. Je regardais, là, un certain nombre de députés macronistes ont voté 2/3 comme le RN, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul tiers où ils ne votent pas comme le RN. Donc, on a quand même des connexions qui sont extrêmement inquiétantes. Et quand on est face à ça, on a l'impression de jouer beaucoup en défense. Et en fait, en sport, on le sait, quand on joue en défense, on est plus fatigué que quand on joue en attaque, quoi. Voilà. Et donc, on subit beaucoup plus. Et parce que on est là, voilà, essayer de faire en sorte de boucher tous les trous. C'est comme dans un bateau avec t'as des bouchons, mais ça fuit toujours à un autre bout. Et donc moi, j'avais ce sentiment-là juste avant les congés. Pour la première fois, j'avais vraiment besoin de mettre, voilà, de faire une pause. J'ai quand même continué à suivre l'actualité, évidemment. Mais non, franchement, c'est dur. Et comment je fais pour tenir l'équilibre? Moi, je le trouve dans le fait que dès le début, quand je me suis retrouvé député, j'ai déprimé en juillet 2022, où j'ai travaillé sur le texte de loi sur le pouvoir d'achat, que j'avais fait plein d'amendements à l'époque. Et je me suis rendu compte que rien ne passait et qu'en vrai, mon boulot allait sans doute pas être que là. Voilà, et que mon travail allait être aussi dans la bataille culturelle, dans faire vivre des idées dans la société, faire lien avec le mouvement social, faire lien avec le mouvement syndical, faire lien avec le mouvement associatif, faire lien avec la société. Peut-être ça ne paye pas immédiatement, mais ça travaille, ça résiste d'abord aussi, hein, parce que c'est aussi une manière de résister, mais ça permet de travailler aussi à l'avènement d'un autre monde. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me guide. Et donc, quand je fais un travail sur l'industrie, Tour de France, qui s'est achevé là, j'ai nourri un futur. Et ça, ça fait tenir face au fait que dans le présent, je sois en défense face à des trucs pourris. Voilà, parce que c'est des textes pourris. C'est des textes caricaturaux, c'est des textes de l'excès, c'est des textes nourris par aucun raisonnement scientifique qui vont à contre-courant des raisonnements scientifiques. C'est des textes par l'absurde. C'est des textes pour marquer des points vers ces gens qui en ont ras-le-bol. Et donc, on pense qu'on peut attraper ces gens qui en ont ras-le-bol par quelques mesures assez démagos. Et si on reprend juste l'exemple de la loi Duplomb, là, quand même, 40% de l'électorat du RN est favorable à la pétition dans un sondage qui est sorti là, 45% du côté des macronistes. C'est-à-dire que même dans leur propre camp, on ne les suit pas. Et donc, ils sont coincés dans un univers qui se joue avec leur chaîne médiatique de CNews à Europe 1 et compagnie. C'est la galaxie Stérin et compagnie. Ils se fabriquent un monde et ils ont l'impression de fabriquer de l'opinion publique à cet endroit-là. En vrai, moi, ce qui peut me rassurer, c'est que cette opinion publique, elle n'est pas totalement ouverte à ça et qu'il y a de la résistance dans la fabrique de l'opinion, qu'il y a d'autres gens qui pensent autrement. Les faits de la pétition, on va en parler. Oui. Donc moi, c'est tout ça qui me permet de tenir. Même si parfois, je te le dis, là, s'il y avait une dissolution, je pense que je ne me poserais pas trop la question, je n'aurais sans doute pas le temps de me la poser pour me représenter, parce que j'aimerais bien avoir fait au moins un mandat en entier, parce que quand même, on ne fait que des bouts de mandat. Mais en 2027, honnêtement, la question se posera de savoir, est-ce que je suis utile là? Est-ce que je serais utile autrement? Est-ce que je suis utile dans m'engageant dans des projets associatifs, dans, moi j'en sais rien, écrire des bouquins, donner des cours, faire de la radio, je sais pas. Il y a un petit sentiment quand même d'impuissance, voilà. Me dire que je repartirais exactement dans les mêmes conditions. Il y a deux cas de figure. C'est si je sentais une capacité collective de la gauche à l'emporter, si j'avais confiance en ce qui peut se passer avec la gauche, honnêtement, ça me donnerait envie d'y jouer un rôle. Je sais pas lequel, mais d'y jouer un rôle. À l'inverse, si le RN était en situation d'accéder au pouvoir, il faudra des gens pour aller résister de l'intérieur aussi. Voilà. Et ça sera un sale job. Hein. Mais ça, je serais prêt à le faire. D'autres le feront aussi. Voilà. Mais tout ça fait quand même que j'ai des questions que je n'avais pas avant sur est-ce que ça devrait continuer? Est-ce que je n'ai pas envie de mener la bataille autrement? Voilà. Donc, je vais bien, mais en gros, pour faire une synthèse.
La pétition contre la loi Duplomb, là, au moment où on se parle, a depuis peu dépassé les 2 millions de signatures. Et c'était ce qui m'avait donné envie qu'on se revoie aujourd'hui. Au vu des raclées qu'on se prend depuis 40 ans, tu disais, ouais, être en défensif, c'est épuisant. Mais je me dis, jusqu'à ce que je rencontre les gens de Bassine Non Merci et Sous les Vents de la Terre, ouais, qui donnent l'impression qu'on a de petites victoires de temps en temps, ou qu'il y a de l'intelligence qui se construit, ce qui est une victoire en soi, un peu d'intelligence dans un monde qui devient complètement stupide. La pétition a dépassé les 2 millions. C'est presque une victoire. Ouais. Réjouissons-nous un petit peu avant qu'on parle à nouveau de cette mortifère et scélérate loi Duplomb. Je vais quand même te passer un bâton merdeux parce que c'est bien beau de se passer la brosse à reluire bio.
Non, on fait pas que ça. On fait pas que ça. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de la connivence parce qu'il y a des valeurs partagées. Tu viens aussi me chercher, c'est normal. Je trouve que c'est ça l'exercice, c'est ça l'intérêt. Et d'ailleurs, à gauche, je pense qu'on devrait être capable de ça.
Donc, tu es notre député ici de cette circonscription de Tours, Indre-et-Loire. Et en Indre-et-Loire, à Tours, il y a des salariés d'une entreprise qui sont très inquiets et inquiètent, les salariés de ST Microélectronique, notamment, qui craignent pour leur poste.
ST Microélectronique.
Qui fabrique des composants électroniques et des semi-conducteurs. Quadrature du cercle, d'écologie compatible avec le système capitaliste, Mais monsieur le député écolo, ST Microélectronique est une entreprise extrêmement polluante qui pollue de l'eau. Donc d'un côté, vous voulez défendre les emplois de gens qui travaillent dans une entreprise polluante. Alors c'est quoi votre solution? Une industrie qui dépolluerait, faire en sorte que ses salariés fabriquent autre chose de plus vertueux?
Très bonne question et je vais apporter plein d'éléments de réponse là-dessus, mais tout en disant que si je fais tout ce travail sur l'industrie, c'est pour justement essayer d'apporter la meilleure réponse possible à cette question.
Alors, tu viens de finir un tour de France.
J'ai visité plus d'une centaine d'usines, j'ai rencontré des centaines de salariés, de patrons, de chercheurs, de PME, de grosses entreprises. J'ai été voir les hauts fourneaux de Pont-à-Mousson, le port de Marseille. Donc j'ai vu des trucs très chouettes, des trucs franchement très pourris. Mais ma conviction profonde, c'est deux choses qui me poussent à faire ce travail-là. Un, on a tourné le dos à la question de la production. C'est-à-dire, finalement, tout le monde s'est tourné le dos, la droite, la gauche, tout le monde, pendant des années. En fait, on était devenu un pays tertiaire, tout ça allait bien pour tout le monde. Et finalement, les pollutions, on ne les regardait plus puisqu'elles étaient à l'autre bout du monde. Voilà. Et que tout le monde s'est arrangé avec ça. Et ça a généré des catastrophes dans des territoires. Et il n'y a qu'à regarder la carte du vote RN et la carte de la désindustrialisation et on verra des superpositions quand même extrêmement fortes. Et donc du coup, on s'est coupé aussi de ce qui a fabriqué la gauche, qui était le monde salarié et le monde ouvrier. Je dis bien salarié et ouvrier parce que tout le monde n'est pas ouvrier. Une bonne partie, comme ils ont basculé dans le tertiaire, dans les services, ben, on les retrouve comme salariés. Mais ce sont les anciens ouvriers d'hier. Ceux qui bossent dans la logistique aujourd'hui sont les ouvriers d'hier. Et c'est la deuxième raison. Il y a une rupture qui s'est construite à cet endroit-là et on a fait comme si tout ça n'existait plus. Voilà. Et ça a même été théorisé par des think tanks proches du Parti Socialiste notamment. Tournons-nous vers d'autres franges de la population pour pouvoir gagner des élections. Et je pense que c'est une erreur profonde et qu'on y a tous un peu contribué. Voilà. Et que nous, les écolos, je pense qu'on amenait l'idée que l'industrie, et on l'amenait parfois malgré nous, mais en tout cas, on amenait l'idée que l'industrie posait un problème profond quant à la soutenabilité de la vie sur Terre. Qu'il y avait une contradiction forte à la fois dans le fait d'industrialiser des process et des productions et de ne pas tenir compte des limites planétaires. Sauf qu'on l'a dit, mais la manière dont on l'a dit, comme on l'a dit de loin, coupé de ce lien avec le monde salarié et ouvrier, eh ben, on a donné le sentiment d'être les alliés de la désindustrialisation.
Et des donneurs de leçons.
Effectivement, on pouvait nous dire, bah, vous nous dites voilà ce qu'il faudrait faire, mais en vrai, là aujourd'hui, on n'en est pas là, et comment on fait? C'est quoi la solution, l'alternative? Et donc, on s'est pris souvent ça, et moi je pense qu'on se relève toujours là où on est tombé la première fois, et qu'il faut reprendre ce chemin-là et faire ce travail-là. Pas pour dire on va produire comme hier, pas pour dire on va continuer de produire sans fin, mais pour pas se bercer de l'illusion qu'il y aurait plus d'industrie, plus de production, qu'on va vivre le retour à la bougie, souvent c'est la caricature qui est faite, ou à l'inverse, tomber dans le délire du Rassemblement National qui nous explique le localisme, on va tout faire ici, on va tout fabriquer ici, on va rien acheter aux autres, mais on va tout leur vendre. Donc on reste dans le monde libéral, mais on ne change rien. La seule truc, c'est qu'on va être dans un repli identitaire. Ça, ces modèles-là, ils sont voués à l'échec. Et donc moi, j'essaye de me dire... Produire pourra vouloir dire quoi demain? À quelles conditions on peut produire? Et comment on sort de la logique imposée par le capitalisme, qui est la logique de l'offre? C'est-à-dire qu'on a une économie qui est basée sur l'offre. Je vais te vendre ce dont tu n'as pas besoin. On va faire du fric sur ce dont tu n'as pas besoin. Et toute cette logique-là, celle qui s'est imposée, et Macron est le prolongement de cette politique de l'offre. Voilà. C'est on va attirer des capitaux étrangers pour te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin. On va laisser rentrer les vêtements de Shein, du vêtement jetable à 1 euro. Et en plus, c'est facile d'argumenter. Regardez, les pauvres, ils peuvent acheter des vêtements, ils ne pourraient pas s'il n'y avait pas Shein. C'est l'argument de Chine, hein, c'est eux qui l'utilisent, hein, ou de Primark. Hein. Et donc, mon idée, c'est qu'il faut aller vers une économie des besoins, une économie qui répond à nos besoins. Parce qu'il n'y aura pas d'économie. L'économie, c'est la base des échanges qui existent. Il y aura des échanges. Et on n'aura pas que des échanges locaux. On continuera d'avoir des échanges internationaux. Mais ils doivent être équitables, ils doivent être justes, ils doivent être basés sur la coopération et pas sur la compétition, la concurrence, sur la guerre que les barons de la tech sont en train de nous imposer. Quand je dis les barons de la tech, le Trumpisme qui amène une logique de souveraineté qui est ma souveraineté écrase la tienne, ma liberté est plus importante que la tienne. Et donc ça, c'est le monde qui est un peu en train de se dessiner. Et ne pas poser la question de la production là-dedans, c'est se soumettre finalement à cette règle de la loi du plus fort. Et moi, je ne veux pas ça. Donc je pense qu'il faut réinventer ça. Maintenant, un écologiste dans les usines, c'est un peu comme un indien dans la ville, quoi. Ça paraît curieux. Et en même temps, je pense que c'est en repartant de celles et ceux qui font, qui sont les premières victimes. de l'absence d'écologie dans la pensée industrielle, qui sont les premières victimes d'un capitalisme où les revenus du capital sont mieux rémunérés que le travail, où le travail est déconsidéré, avec pour conséquence un mal-être au travail, une perte de sens, des difficultés majeures à recruter dans le champ de l'industrie, alors qu'on paye un peu mieux qu'ailleurs. Parce que tout ça, ça ne fait pas sens. Et donc, du coup, je repars de ce que c'est produire, là où ça en est aujourd'hui. Je vais voir, je discute avec les salariés, avec des chefs d'entreprise. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord. Il y a des gens avec qui je peux être... Mais il y a des gens qui font des trucs super chouettes. Je me dis, comment on peut réinventer un modèle industriel qui, à la fois, replace l'humain au cœur et donc redonne le pouvoir aux salariés. Donc moi, par exemple, je dépose une proposition de loi pour que, dans les entreprises de plus de 50 salariés en France, la moitié du conseil d'administration soit des salariés. Mieux qu'en Allemagne. Je dépose une proposition de loi aussi sur la démocratie dans l'atelier. Je veux créer un délégué au travail réel qui est chargé d'animer le collectif de travail pour décider des organisations de travail. Parce que les gens sont malades au travail, tout le monde. On peut faire un sondage, tu verras, tout le monde a une mauvaise histoire avec le travail, a souffert du travail. Mais souvent souffre du fait qu'il y a un travail prescrit qui est celui des managers. Je ne suis pas pour qu'il n'y ait plus de managers, mais qui descend. Et en fait, les gens, ils passent leur temps à ajuster les objectifs pas tenables qu'on leur a donnés, à essayer de trouver des solutions techniques. Moi, je veux redonner de la force à l'habileté, au geste, à l'intelligence collective, à tout ce qui peut permettre que, on trouve du plaisir aussi à être au boulot. On passe 80% de notre temps éveillé au boulot, quoi. Voilà. Donc, une industrie demain, elle se préoccupe de tout ça, du travail, de la démocratie au travail. On a des modèles, hein, la coopérative, la SCOP, c'est un modèle qui peut exister. Donc, on a plein de matières qui est là. Et puis, de l'autre côté, c'est une production en fonction de nos besoins et donc une définition démocratique de nos besoins. De quoi avons-nous vraiment besoin? Qu'est-ce qui est superflu? Est-ce qu'on continue de faire de l'ultra fast fashion, par exemple? Est-ce qu'on va avoir besoin d'autant de batteries et donc de lithium? Est-ce qu'on va extraire autant de lithium du sol? C'est ça l'avenir? C'est quoi la trajectoire? C'est quoi l'idée? Où est-ce qu'on discute de ça? On est en train de réouvrir des mines un peu partout en France sans que personne soit au courant. On ne discute pas de ça. Et bien évidemment, ça se passe mal. Quand il y en a une qui sort un peu de terre, comme à côté de Clermont-Ferrand, il y a des oppositions. Parce qu'on n'a pas choisi de quoi nous avions besoin et à quelles conditions nous allons le faire. Et enfin, cette industrie, évidemment, elle doit être située entre deux choses. Un, la satisfaction aux besoins. Et deux, comme plafond, les limites planétaires. Il y a une théorie économique qui s'appelle la théorie du donut qui permet de positionner ça. Comment tu situes ton activité de production entre les deux? C'est-à-dire tu produis pas selon ce qui nous est vraiment nécessaire, mais tu ne peux pas produire au-delà de ce qui va continuer d'abîmer les limites planétaires. Il y en a 9, c'est les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, il y en a 6 qui sont dépassés aujourd'hui. Donc il faut revenir dans le vert sur plein de sujets. Voilà, pour donner un exemple, les PFAS, les polluants éternels, certains disent que c'est une nouvelle limite planétaire, qu'il y a une saturation de l'environnement, une saturation dans l'environnement de la présence des polluants. Bah moi, je m'occupe de ST Microélectronique, pour y revenir, parce que je pense que les salariés sont les premières victimes des décisions, que la suppression des emplois ne réglera pas le problème des polluants éternels. Par contre, travailler avec les salariés au futur de leur activité, et eux, ils s'intéressent aux polluants éternels. Et eux demandent à ce que des tests soient faits les concernant. Il n'y a pas de tests qui sont faits des concernant. Et eux ont envie d'imaginer comment on pourrait améliorer les process. Ils s'intéressent de plus en plus à ça. Il y a un truc qui s'est passé côté des syndicats qui se sont saisis la question écologique alors qu'avant, ils ne s'en saisissaient pas. On opposait les deux. Là, maintenant, tout le monde a bien l'idée qu'il n'y aura pas l'un sans l'autre. La CGT, la CFDT, les deux qui bossent ces questions-là, ont vraiment avancé là-dessus. Et donc, c'est avec eux qu'on va réussir à changer la donne. Et donc, il faut allier cet enjeu humain, cet enjeu de démocratie dans l'entreprise et cet enjeu de trajectoire d'une industrie et d'une production justement nécessaire qui n'impacte pas nos limites planétaires. Voilà. Et donc, s'intéresser à ST, c'est s'intéresser à tout ça. Et c'est se dire, ah ben oui, mais ok, aujourd'hui, ils consomment beaucoup d'eau, énormément d'eau. C'est vraiment un très, très grand utilisateur d'eau. Ok, qui décide de ça? Où est-ce qu'on décide de ça? Comment on fait? Est-ce qu'on va produire sans fin des semi-conducteurs? Quand je m'intéresse là aux emplois, parce que c'est l'immédiat pour les gens, avec les salariés, je discute de tout ça. Et ils ont des réflexions sur tout ça. Et donc, pour moi, c'est à cet endroit-là que ça va se jouer.
T'as été bien reçu par les salariés?
Hyper bien reçu. D'abord, j'étais le seul à me mobiliser au début. J'ai réussi à faire signer un courrier par tous les élus du territoire, considérant qu'il fallait qu'ensemble on réagisse, parce que c'est un territoire qui a investi beaucoup autour de ST Microélectronique. Il y a un laboratoire, le CERTEM, il y a des sous-traitants autour de ça, c'est beaucoup d'argent public qui a été mobilisé. Si on ne fait pas front et qu'on laisse expliquer qu'on change de stratégie, j'ai reçu la réponse du PDG à mon courrier là, qui m'explique en long et en large qu'il n'y aura pas de départ imposé, mais il y aurait 400 volontaires à Tours. C'est le volontaire à qui on a mis le couteau sous la gorge. Pour voir le nombre de salariés qui étaient présents quand il y a eu grève, ils ne sont pas volontaires. Hein. Alors, j'ai peut-être pas vu les 400 volontaires, ils sont peut-être à un endroit dans l'usine, je sais pas où. Mais évidemment qu'on on peut finir par trouver des volontaires. Voilà. On leur dit, ça, vous changez de poste, vous allez aller à Grenoble. Parce que vous êtes volontaire à un départ. Le gars, il a investi, il a sa maison ici. Ou elle a construit sa famille ici. Enfin, c'est pas acceptable de dire ça. Et surtout, d'annoncer 1000 emplois parce qu'on change de stratégie. Alors qu'on a touché autant d'argent public. Alors que tout le monde dit que c'est une activité absolument indispensable. Les semi-conducteurs, on en a besoin. C'est comme sur la voiture électrique. Moi, je ne suis pas pour produire des voitures électriques comme on avait l'intention d'en produire. C'est délirant. Mais à ceux qui disent « oui, il faut pas faire », qui disent « il faut pas utiliser de lithium ». Le truc, c'est que pour l'instant, le lithium, essentiellement, il vient de Chine. Il est raffiné en Chine. La Chine a mis la main mise sur tous ce qu'on appelle les métaux stratégiques et critiques. Est-ce qu'on continue d'importer de Chine ? Est-ce qu'on accepte l'idée qu'on en extrait ici ? Mais dans quelles conditions ? Quelles limites ? Est-ce qu'on se fixe des limites ? On ne se fixe pas de limites ? C'est ces questions-là auxquelles il faut répondre. Et ne pas y répondre ou balayer ça d'un revers de la main par une position complètement fermée ne marche pas. Voilà. On ne peut pas continuer avec des moteurs thermiques. À terme, on va se le prendre. Voilà, on peut en avoir encore un peu, parce que c'est pas, voilà, mais on va pas pouvoir continuer avec des camions comme on en a partout. Ça, c'est une folie. Voilà, donc du coup, c'est quoi la trajectoire ? Et moi, je travaille un peu sur tout ça. Les réponses, elles seront construites un peu collectivement. L'industrie, c'est trop important pour la laisser qu'aux industriels. C'est une question qui nous concerne tous. Nous consommons. Nous sommes des consommateurs. Comme on a les AMAP, qui sont le lien entre les consommateurs et entre les mangeurs et les producteurs, comme on a les AMACA dans la culture, malheureusement trop peu, mais qui sont la même logique que les AMAP dans le champ de la culture, les producteurs de spectacles sont liés aux spectacteurs, on pourrait dire le spectacteur, voilà. Et bien de la même manière, la question de la production, elle doit avoir le même destin, de poser la question de ce lien entre ce que je produis, ce que je consomme, et que le consommateur, pas simplement par l'effet prix, mais parce qu'il est associé aussi à des choix, à des décisions sociétales sur ces questions-là. Je pense qu'il y a une bifurcation à opérer. Je pense que c'est central et qu'il y a plein d'autres sujets dont traite la gauche, et elle le fait très bien. Mais cette question-là, je pense qu'on n'est pas assez mobilisé, pas assez clair. On ne parle pas assez du travail, on ne parle pas assez de la question de la production. Et que ce soit un écolo qui le fasse, je trouve qu'il y a un petit pied de nez aussi. Voilà, parce que ce n'est pas forcément de là qu'on l'attendrait. Mais au contraire, je pense que c'est profondément là-dessus qu'on doit être capable d'apporter des réponses pour être crédible.
Ce n'est pas le sujet principal de ce qui nous anime aujourd'hui, mais enfin, puisqu'on parlait de cette entreprise ST Microélectronique, on a mentionné le fait que cette entreprise, notamment, gaspille et pollue beaucoup d'eau. Sans en faire une grande conférence aussi, rappelez que cette entreprise fabrique des composants électroniques qui servent aussi à fabriquer du matériel de guerre. On le sait, la France fournit actuellement du matériel de guerre à un État qui commet un génocide.
Ouais, mais en fait, la question que moi je pose profondément, c'est celle de qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, pour quel usage. J'évoquais ce qui était inutile et ce qui était utile. J'évoquais ce qui était futile et ce qui ne l'était pas. Mais j'aurais pu aussi évoquer, je peux évoquer, ce qui est dangereux pour nous, ce qui est dangereux pour la planète, ce qui est dangereux pour le vivant d'une façon générale. Et c'est sûr que la fabrication d'armes fait partie de ce qui interroge les équilibres internationaux qui, en différents théâtres du monde, vient alimenter des conflits ou parfois alimenter des situations absolument atroces comme celles qui se vit en ce moment à Gaza, où évidemment la France participe de fournir des armes à Israël. Et Israël, mais je dirais plutôt Netanyahou, le gouvernement Netanyahou, parce que je crois important de toujours faire la différence, participe aujourd'hui d'un massacre de la population palestinienne. Et bien évidemment, on ne peut pas s'exonérer d'interroger nos activités au regard de ce qu'elles produisent ici ou à l'autre bout du monde. C'est un des enjeux dans le moment où nous repensons notre industrie. La défense ne va pas disparaître, il y aura encore des armes qui sont fabriquées, mais il est normal qu'à tous les étages, et à commencer par celles et ceux qui travaillent dans les usines, on sache pourquoi on travaille. Et aujourd'hui, une des difficultés dans le monde industriel, je suis sûr qu'on interroge les salariés, ils ne savent pas forcément quel est l'usage des pièces. Ils ne s'occupent pas de où est-ce que c'est vendu, ce qu'ils fabriquent. Mais évidemment, ils peuvent se sentir percutés par le fait que ça puisse servir. Et moi, je pense aux salariés de la CGT, des dockers de Marseille, qui ont bloqué l'exportation d'armes en se disant « moi, je me sens responsable aussi de ce qui peut se passer à travers ça ». Voilà, donc ça, c'est une invitation collective à repenser aussi notre industrie en fonction de ses conséquences, ici comme ailleurs dans le monde.
J'adore Petits plats aux pesticides, Les pesticides, c'est le bonheur. Y a pas à dire, c'est excellent. Pitié, plus de flan caramel, sans anticoagulant. On est les champions de la pâtisserie en France. Et on compense l'excès de levure par régulateur de croissance.
Néonicotinoïde, l'imidaclopride, le clothianidine,
le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore! Oh oui, j'adore!
Assaisonnement aux pesticides par obscur feuillage pour nous amener à reparler de néonicotinoïdes tueurs d'abeilles avec le député écologiste Charles Fournier qu'on a revu fin juillet 2025 à l'occasion des 2 millions de signatures contre la loi Duplomb. Loi scélérate imposée de façon parfaitement antidémocratique avec un coup bas encore plus pervers qu'un 49-3. En effet, le porteur de la loi Duplomb a lui-même posé une motion de rejet sur son propre texte afin que ce dernier ne soit pas débattu par les députés, mais envoyé devant le petit comité d'une commission paritaire composée de 7 sénateurs et de 7 députés, dont une majorité de droite, et aux ordres de la FNSEA, prétendu syndicat agricole au service de l'agro-industrie.
C'est pour ça que le chemin qui est devenu le plus courant en ce moment, parce qu'il ne faut pas oublier la responsabilité directe du gouvernement dans cette affaire-là. C'est-à-dire que sur des textes comme ça, le gouvernement, plutôt que de faire lui-même des textes de loi, dont il n'a absolument pas la maîtrise de ce que vont devenir ces textes de loi, passe par des sénateurs, et souvent des sénateurs. Le texte part d'abord du Sénat, c'est une proposition de loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une proposition de loi, il n'y a pas d'étude d'impact. Un texte de loi du gouvernement, il y a une obligation de faire une étude d'impact. Ça passe aussi par un avis du Conseil d'État. Et donc là, il s'évite tout ça. Il s'évite de dire à la fin, bah, c'est pas passé, c'est pas de notre faute, c'est l'Assemblée qui n'a pas réussi. Donc ils ne prennent aucune responsabilité. Et en plus, quand on décide de réintroduire l'acétamipride, par exemple, il n'y a pas d'étude d'impact. Il n'y a aucun élément qui sont fournis. Et donc là, on vote sur des prises de position sans éléments qui viennent étayer. Et après, c'est de fake news en fake news. Quand on a une ministre qui, dans l'hémicycle, vous explique que de l'acétamipride, vous en avez dans les aérosols domestiques, et donc on l'accepte pour nous, pourquoi on ne l'accepterait pas pour l'agriculture, c'est faux. C'est une fake news. Et bien, elle est balancée, répétée par tout le monde. Voilà. 2/3 des amendements en matière d'agriculture qui viennent de la droite et de l'extrême droite jusqu'aux macronistes viennent de la FNSEA, ont été rédigés par la FNSEA. Donc il y a une connivence là, très claire, entre certains syndicats agricoles et bon nombre de députés qui vont de la Macronie jusqu'à l'extrême droite. Et donc peut-être pour revenir quand même sur ce paradoxe profond de ce texte, c'est-à-dire qu'il raconte qu'il veut lever les contraintes sur le métier d'agriculteur. En fait, en vrai, il veut lever les contraintes sur quelques businessmen, ceux qui se sont accaparés les terres, qui veulent s'accaparer l'eau, qui ont des productions qui fatiguent nos sols, abîment notre air, abîment notre santé. Et bah, évidemment, leur modèle, à un moment donné, il est fragilisé. C'est ceux qu'on vient aider quand il y a des catastrophes. En vrai, à quoi sont confrontés les agriculteurs d'une façon générale? Parce que c'est vrai qu'il y en a 1/5 qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est vrai que beaucoup ne vivent pas de leur activité. Mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Un, aucun revenu et pas de prix qui leur garantissent d'être payés à hauteur du travail qu'ils font. Le scandale. Donc il y a la question des revenus. Il y a une loi qui avait été votée, proposée par mon groupe, sur des prix planchers, pour rémunérer de manière juste, c'est-à-dire pas droit d'acheter en deçà de ce prix-là. Balayé d'un revers de la main, ce texte n'a pas continué, il n'a pas été porté au Sénat. Si on veut vraiment s'attaquer au problème des agriculteurs, c'est à ça qu'il faut s'attaquer.
Mais là, tu touches au lobby de la grande distribution.
Ah, tu touches à la logique du marché, tu touches à tout ça. Deuxième sujet, le réchauffement climatique. Ce qui menace nos agriculteurs, c'est ça. C'est quoi les réponses qui sont apportées là-dessus? Accaparement de l'eau par des méga-bassines pour quelques grands irrigants, plutôt que de changer des pratiques et moins irriguer ou s'orienter vers d'autres types d'activités. Ça, rien n'est mis en œuvre concrètement et opérationnellement là-dessus. Et puis, troisième sujet, la moitié des paysans vont partir à la retraite dans les années à venir. Le sujet, c'est le renouvellement des générations. En quoi on se donne les moyens de ça? Par exemple, en matière de formation, on annonce des chiffres dans une loi, on va former tant de jeunes, mais on supprime des postes dans les lycées publics agricoles et dans les lycées privés aussi d'ailleurs. Et donc, on ne se donne pas les moyens du tout d'avoir une génération qui va se saisir aussi de ces questions-là. Et donc, non seulement on peut ne plus avoir de butineurs et butineuses, comme tu le disais tout à l'heure, à cause de l'acétamipride, mais en plus, on n'aura peut-être plus de paysans, on n'aura que des gros exploitants. Et le mot exploitant, il raconte. On exploite jusqu'au bout le sol, l'air. Voilà, on va au bout de cette exploitation. Alors que, en fait, on devrait cultiver. Ce qui n'est pas la même chose, on devrait dire un cultivateur, on devrait dire un paysan. Mais quand on dit un exploitant, on raconte bien finalement ce qu'est devenu ce modèle-là. Et les premières victimes de tout ça sont ceux qui ont les mains dedans, sont les ouvriers agricoles, ce sont les petits paysans qui ne vivent pas de leur métier. C'est pas le gars qui est sur son ordinateur dit bah là je vais injecter des pesticides de manière très concentrée, parce que c'est ça l'argument aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui les techniques permettent de tout régler. Voilà. Par exemple sur l'acétamipride, il a été expliqué que on faisait des semences enrobées. Et que le pesticide, on ne le pulvérisait pas, donc ça ne posait pas de problème, puisqu'il était enrobé avec la semence et qu'on le mettait dans le sol. Et qu'évidemment, tout se passe bien dans le sol, il ne se passe rien. Et en fait, c'est faux. Dans le sol, il y a de la diffusion. Il y a aussi des insectes qui vivent dans le sol, qui jouent un rôle extrêmement important. Et donc, de tous les côtés, ce n'est pas une bonne idée. Et là aussi, où ce n'est profondément pas une bonne idée, c'est que cet acétamipride, une fois que la France aura reculé, comment elle va l'expliquer à l'échelle européenne qu'il faut avancer ? Oui. Donc plutôt qu'être un pays fer de lance, moi c'est ce qu'on a poussé nous sur les polluants éternels, une loi, on nous disait non, il faut attendre que l'Europe prenne position. Mais l'Europe c'est nous. Donc ça veut dire quoi attendre que l'Europe prenne position? Ça veut dire ne rien faire. Ça veut dire ne pas vouloir faire. Nous on disait il faut faire, la France doit faire, elle doit être modèle. Voilà, et d'autres sont modèles sur d'autres sujets, mais on doit entraîner. Et pour entraîner, il faut être à la pointe et pas au retrait. On dit il n'y a pas d'alternative.
Les bestioles, en fait, qui sont censées être dégagées par l'acétamipride, ouais, peuvent être repoussées par des rangs d'orge. Protéger de la betterave.
Ouais.
Mais en fait, dans un pays où une personne sur trois est obèse en surcroît et que ça fait des maladies cardiovasculaires, est-ce qu'on a besoin de fabriquer autant de sucre qu'un vrai poison ? Et j'avais un camarade de la Confédération paysanne aussi qui disait, voilà, pour les noisettes, les poules grattent la terre et elles mangent les larves de ces bestioles qui font des petits trous dans les noisettes.
On touche aux trois dimensions de ce qu'est une alternative. Parce qu'en fait, en gros, on dit il n'y a pas d'alternative. Si le raisonnement, c'est une alternative dont l'efficacité, entre guillemets, à court terme, pour tuer le ravageur, oui, à court terme, pour tuer les ravageurs qui déclenchent la jaunisse, on n'a pas cette alternative-là. Mais si on rajoute que l'efficacité dans le temps long, c'est catastrophique et qu'il n'y en a pas, et qu'au contraire, ça va continuer d'appauvrir la biodiversité, de donner plus de place aux ravageurs qui, eux, vont résister. Donc, demain, ça va être pire. Le remède va rendre plus malade qu'il ne va guérir. Alors, on voit bien que cette histoire d'absence d'alternative est une manipulation. En fait, les alternatives, ce n'est pas sur le même terrain qu'elles se jouent. Elles se jouent sur trois terrains. Elles se jouent sur le type de culture que nous avons. Et encore une fois, parallèle avec l'industrie, la question des besoins. De quoi avons-nous besoin ? Est-ce qu'on a besoin de faire autant de betteraves ? Est-ce qu'on a besoin de faire autant de sucre ? Non. Demain, il faudra organiser, accompagner la transition de ces filières-là. Est-ce qu'on a besoin de produire autant de céréales pour nourrir les bêtes des fermes-usines à l'autre bout du monde ? Non. On a besoin de se nourrir, on a besoin d'avoir une activité agricole diversifiée. Et le modèle de l'exportation n'est pas le seul modèle à proposer pour l'agriculture. Donc, il y a quel type de culture on a ? Quel type de production on a ? Ça, c'est une vraie question. En fonction de nos besoins. C'est un vrai sujet. Par exemple, si on veut développer de l'autonomie pour l'élevage, sur les productions liées à l'élevage, c'est-à-dire ce qui va nourrir nos bêtes, et ben, du coup, il faut des productions qui aillent avec ça. Ben là, nous, on importe parfois du soja pour pouvoir nourrir les bêtes. Et ça, c'est un système qui marche sur la tête. Alors qu'on devrait travailler à l'autonomie fourragère des exploitants ici. Donc, il y a toute une série de mesures de ce côté-là. Il y a une deuxième série d'alternatives qui sont liées à des pratiques culturelles, la manière dont on cultive. L'agroforesterie est connue. Quand vous avez des problèmes de gel pour les vignes, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais si vous avez un peu de forêt, si vous associez des arbres avec de la vigne, ben vous allez un peu protéger votre vigne d'une part du gel. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre des techniques. Il y a faire la cueillette plus tard qu'on a l'habitude de le faire pour éviter la présence de certaines maladies. Bref, il y a plein de choses là-dessus. Et l'agronomie aide à chercher des mesures de ce côté-là. Et puis, la troisième voie d'adaptation, elle tient au fait qu'on imagine des solutions qui permettent à des paysans d'avoir une diversité dans leur activité agricole, donc de pouvoir peut-être avoir des pertes, mais avoir par ailleurs des cultures qui fonctionnent bien. Voilà, et que plus il y a de diversification, moins il y a de risques. Voilà. Et il y a des systèmes aussi à inventer sur les assurances pour les agriculteurs. Je pense à un exemple en Italie. Ils ont mis en place, à titre expérimental, sur du maïs qui est attaqué par un ravageur. Mais en général, ils ont identifié que c'est à peu près 4% des surfaces seulement qui sont attaquées quand il y a une attaque. Et qu'on asperge 100% des surfaces pour 4% des surfaces qui vont être malades. Ben, ils ont dit plutôt que de faire ça et de mettre 40 euros par hectare d'insecticides, ils ont proposé aux paysans de dire, bah, vous mettrez 10 euros dans un système d'assurance, vous ne mettez plus de pesticides. Si jamais vous êtes attaqué à 4%, eh ben, vous serez indemnisé des pertes. Voilà. En fait, ça fonctionne. Ça coûte moins cher aux paysans. Il n'y a pas tant d'attaques que ça. Du coup, il y a aussi des systèmes solidaires d'organisation collective qui permettent de répondre à des problématiques. Parce que considérer qu'il n'y aura plus d'attaques de pucerons, qu'il n'y aura plus de... C'est pas vrai, il y aura. Ça, c'est un monde hygiéniste. Il n'existe pas, celui-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est que dans la biodiversité, chacun retrouve sa place. Il y aura encore des pertes, ça existera. Voilà.
Quelqu'un qui ne sera pas content dans l'affaire, c'est le marchand de poison.
Bah, bien sûr. Et le truc, c'est que qu'en plus, quand la loi Duplomb dit ce marchand-là, c'est aussi celui qui va conseiller les agriculteurs sur ce qu'il faut faire. Parce que quand même, on les a conseillés pendant des années. Il faut agrandir, il faut investir, il faut utiliser des produits, il faut augmenter ta productivité. C'est ça le langage qui leur a été tenu. Et il y a toute une série de complicités autour de ça. On les a embarqués dans des temps. Évidemment que la plupart, ils disent, bah non, attends, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Et ils ont l'impression, en plus, qu'on leur dit qu'ils sont des empoisonneurs. L'agribashing dont on parle. Voilà. Et puis on peut en parler, nous, les écolos, hein, parce que l'écolo-bashing, on connaît bien. Hein. Donc, du coup, oui, ce sentiment, moi, je le comprends. Mais le truc, c'est ce que je trouve fou, c'est qu'on n'arrive pas encore, avec tous, une partie des paysans sont convaincus de ce que je raconte là, hein. On n'arrive pas avec tous à créer les alliances entre les mangeurs et les producteurs, qui sont des alliances de solidarité, qui font que demain, on va travailler ensemble plutôt que de se renvoyer à la figure des responsabilités. Voilà. Mais ça ne peut se faire que si on est dégagé de ces influenceurs qui s'appellent Monsanto, qui s'appellent Bayer, qui ont un intérêt à ce que ce système-là continue d'exister. Il y a tout un capitalisme agricole qui s'est construit, qui est sur l'offre et pas sur le besoin, et entraîne le système dans le mur. Et la loi Duplomb, c'est une loi de lobby. Et la fabrique du doute fonctionne comme d'hab. C'est-à-dire, dès qu'il y a un argument, on te glisse un autre argument. Là, sur la pétition, c'était flagrant. La pétition commence à monter. Le sénateur Duplomb et plein d'autres se pressent sur les plateaux télé pour dire « c'est instrumentalisé ». C'est la gauche, les écologistes qui instrumentalisent les gens pendant l'été. Nous, on a tous été voir les gens un par un. Voilà, il faut signer cette pétition. Voilà. Quand il y a 2 millions de signatures...
En plein été.
En plein été. Ouais. Personne n'a instrumentalisé personne. Que ça part d'une jeune étudiante. Évidemment que nous, on fait tout pour qu'elle soit signée. C'est-à-dire, comme eux, ils font tout pour que leur loi elle soit défendue. Mais c'est l'instrumentalisation, moi, je veux bien qu'on en parle, de qui a écrit et qui a tenu la plume de ce texte de loi. Pourquoi on a été mettre dedans ces sujets-là? En quoi ces sujets concernent tous les paysans? Qui a été concerté? Est-ce que les mangeurs ont été concertés? Ils n'ont pas été concertés. Ça s'est joué dans un petit monde, ça. Du coup, l'instrumentalisation, elle est de ce côté-là. Elle est pas du... voilà. Et puis alors, l'affaire de la façon dont le texte est venu à l'Assemblée nationale...
Déni de démocratie.
Oui, et puis un nouveau coup de Trafalgar. C'est pas Duplomb, mais c'est en accord avec Duplomb. C'est Dives, Julien Dives, qui était le rapporteur à l'Assemblée nationale du texte de Duplomb, qui est un texte du Sénat, donc un sénateur, le sénateur Duplomb. Et ben, Julien Dives, il a présenté une motion de rejet sur son propre texte, ce qui permettait d'aller directement à la case commission mixte paritaire, cette sénateur, cette députée, qui essaye de se mettre d'accord sur une version du texte. Parce que pour qu'un texte de loi soit adopté, il faut qu'il soit adopté dans les mêmes versions au Sénat et à l'Assemblée nationale. Tant qu'il y a des écarts, ben normalement, le texte il continue de circuler. Surtout quand c'est une proposition de loi. Quand c'est un projet de loi du gouvernement, il y a une procédure accélérée en général. Et on va directement, après une étude par le Sénat, une étude par l'Assemblée nationale, on va en commission mixte paritaire. Voilà. S'il n'y a pas d'accord, le texte peut repartir. Et donc là, ils se sont évités un débat. Sauf que là, les citoyens ont décidé qu'il y aurait un débat. Voilà. Et il y aura un débat. Parce que la présidente de l'Assemblée ne peut pas s'y opposer. Enfin, elle pourrait. En théorie, elle peut.
Le truc qui donnait un petit sentiment de victoire, si j'ose dire, c'est qu'ils se disaient, allez, on va leur passer ça pendant qu'ils seront à la plage. Enfin, pour celles et ceux qui ont les moyens d'y aller à la plage, ce qui n'est pas le cas de tous. Et en fait, non, finalement, en plein mois de juillet, les gens ont réagi, plein été.
Oui, et puis ils n'ont pas voulu de débat, ils vont en avoir un, avec 2 millions de personnes minimum qui vont s'intéresser de près à ce que va donner ce débat-là. Il faut préciser, 61% des Français, dans un sondage, sont contre la loi Duplomb et favorables à la pétition qui vient d'être signée. Donc, ce n'est pas que 2 millions. Hein.
Est-ce que le risque, ce n'est pas que tous ces gens soient contre la cétémipride et exit les méga-bassines, les fermes-usines,
oui,
les...
Je pense que, sans doute, dans ces gens-là, tout le monde n'est pas d'accord sur tous les sujets. Mais l'important dans le moment, c'est que d'abord... On a assisté à quand même quelque chose d'assez fou dans cette petite manipulation pour éviter tout débat, dans la façon dont ce texte a été adopté. Mais on a des gens qui ont décidé que ça ne pouvait pas rester comme ça, voilà, et qui ont décidé de trouver les moyens d'agir. Voilà, ça, c'est rassurant. Plein été, 2 millions de personnes qui s'intéressent à ces questions-là, qui parlent de ça. ça dit quelque chose de positif pour la suite et il faut le regarder comme ça. Donc, c'est une victoire. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on célèbre plus les victoires. Mmh. C'est une étape du chemin vers la réussite, c'est de célébrer, c'est d'être capable de reconnaître quand il y a eu quelque chose qui se passe qui est intéressant. Les 2 millions ne sont pas contre toutes les mesures de la loi du plomb. Mais n'empêche que sur un sujet qui touche à la santé publique, qui touche à la santé des écosystèmes, qui touche à la santé des gens, il y a un accord. Voilà. Et ça, cette question-là, elle est centrale. Elle peut fédérer les gens. Parce que à partir du moment où on traite de cette question-là, là, il y a une étude qui vient de montrer que les cancers augmentaient chez les jeunes. Oui. La mortalité infantile se dégrade dans notre pays. On a quand même plein d'éléments. Et je me dis, sur les polluants éternels, il y a eu aussi plein de réactions, plein de mobilisations. Les gens, ils se disent, mais la santé, c'est ce qui me reste, qui est à moi, quand même. C'est mon droit de vivre sainement. Voilà. Et que ça, oui, bah, c'est une base pour fonder une alternative au délire auquel on est en train d'assister. Comme un signal fort qui a été envoyé. Et on n'a pas un peuple docile qui serait complètement sensible à l'état de discours qui manipule quand même, voilà, sur ces questions-là. Donc après, sur les méga-bassines, bah, y a encore du boulot pour faire comprendre. Sur les fermes-usines, y a peut-être encore du boulot pour tout ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une convergence. Et moi, j'ai vu dans toutes les manificiatures des gens que je ne voyais pas d'ordinaire. Sur la loi du plomb. Donc quand même, voilà, il y a un truc là, et moi je le prends comme une bonne nouvelle.
Moi je vends des produits chimiques qui donnent des réactions allergiques et des injonctions paradoxales. On souffre, on gémit, on râle. Putain fou, qu'est-ce que tu fais? Fausse route chimiste mine. Le temps passé dans la gouttière, j'y dans le cimetière. Adieu le bronze, adieu la trique. Bonjour la phytomécanique. T'as bouffé des pesticides, lavé, pelé, c'est toujours de l'acide. T'as bouffé des pesticides, lavé, pelé, c'est toujours de l'acide.
Vendeur de pesticides, dégaine. Avant de reprendre notre conversation avec le député Charles Fournier à l'occasion des 2 millions de signatures contre la loi du plomb.
À partir de 500 000 signatures, il y a une obligation pour le bureau de l'Assemblée nationale d'étudier le fait de pouvoir inscrire à l'ordre du jour un débat sur le sujet. Pas de réétudier le texte. D'ailleurs, honnêtement, ce qui paraît normal dans une démocratie, si un texte a été voté, si immédiatement après on pouvait faire une pétition avec 500 000 personnes, ce qui fait quand même pas une majorité, et dire bah non, finalement ce texte on n'en veut plus, il y aurait quand même un petit problème de fonctionnement. Donc moi je suis pas pour que c'est un effet immédiat. Par contre, c'est une forme d'interpellation, et là le président de la République, et dans la constitution telle qu'il est, peut faire une chose, c'est faire une deuxième délibération, c'est-à-dire faire revoter sur le texte. Et donc la balle est dans le camp du président de la République. Il a dit qu'il se prononcerait fin août après le Conseil constitutionnel. Il espère que le Conseil constitutionnel...
Là, on repose sur l'honnêteté intellectuelle d'Emmanuel Macron.
Mais en même temps, dans la situation, nous, on est bien obligés de lui mettre une pression à lui pour lui dire, vous nous faites des leçons récentes sur l'écologie, qu'il ne fallait pas abandonner la question de l'écologie. Là, ils ont une petite occasion de se remettre un peu d'aplomb et non pas du plomb. Voilà. Et du coup, de faire revoter. Je ne sais pas si ça changerait, mais il y en a plein là qui ne sont pas à l'aise. De députés macronistes qui ont voté pour, qui se font interpeller de partout. Moi, je voudrais que tous ceux qui ambitionnent, par exemple, de devenir maire de grande ville, qui vont venir expliquer aux gens, non, mais bon, on a voté pour, mais vous inquiétez pas, votre santé, elle nous préoccupe beaucoup, dans les grandes villes ou ailleurs. Voilà, il va falloir venir expliquer ça aux gens, parce que quand même, ça génère des colères. Il y a des gens, ils peuvent se dire, non, moi, c'est terminé. Voilà, ça, ce vote-là, c'est une faute majeure. Donc, je pense que certains vont réinterroger. Ils ont suivi le mouvement et je ne suis pas sûr qu'il y aura autant de voix pour. Alors après, est-ce que ça fait une majorité? Ça, je ne sais pas dire, mais c'est la voie qui peut être explorée. Puis après, évidemment, il y a le Conseil constitutionnel. Même si on a changé de présidence, j'ai envie de faire confiance au fait qu'il fasse son travail. Et si je me mets à douter de tout ça, je doute de tout. Et voilà. Donc on va attendre ce qu'il va faire. D'ailleurs, sur la loi de programmation agricole, il a recalé plein de mesures. Donc l'exercice peut se passer aussi de ce côté-là. Puis enfin, nous, il y a des niches parlementaires qui vont arriver derrière. Donc on peut redéposer des textes pour aller dans une autre direction que celle qui est proposée là. Il faudra revenir, quoi qu'il se passe, sur les décisions qui sont dans cette loi.
Mais ils ont mal joué parce qu'ils auraient lâché sur l'acétamipride, hop, ouais. Et puis ils auraient glissé c'est sur vrai. Les mégabassines, les fermusines, les machins, ils se sont cramponnés comme des idiots. Ouais. Tant mieux.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, la filière betterave, on ne l'a pas dit, hein, mais si la filière betterave, elle ne va pas bien, ce n'est pas juste à cause de la jaunisse. C'est aussi dans l'aval, dans la transformation. Et oui, il y a eu plein de mouvements de grève parce qu'ils maltraitent les salariés. Il y a eu une vraie difficulté dans l'aval et pas que dans l'amont. La difficulté de la filière, elle ne tient pas qu'aux attaques de la jaunisse. On a raconté ça, mais en fait, c'était bien plus compliqué l'affaire. Et donc, même en ayant les 7 amyprites, ça ne va pas régler leur problème totalement. Voilà. Donc, je te dis, voilà. Non, après, derrière, ça prouve la puissance quand même des lobbies qui arrivent à peser sur des décideurs et parfois sur l'opinion publique quand même. Hein. Ça dit quelque chose. Hein, voilà. Donc, oui, il faut des lobbies citoyens, là, il y en a face à ça, pour amener une autre idée, une autre vision de ce que pourrait être notre agriculture. Voilà. Et moi, j'ai l'impression, comme je le fais avec le travail sur l'industrie et le monde ouvrier, qu'il y a des passerelles à établir. Voilà. Et un truc qui m'agace profondément, c'est quand on me dit « Oui, non, mais toi, tu n'es pas agriculteur, tu ne peux rien dire. » Moi, je ne suis pas industriel non plus. Je pourrais dire sur quoi, moi ? Sur le seul sujet qui est le mien. Donc, je pourrais parler que de l'éducation populaire, par exemple. Je prends un exemple. Hein. Voilà. C'est complètement délirant. S'intéresser à la chose publique, c'est de pouvoir parler de tout. Par contre, c'est aller chercher l'avis de celles et ceux qui sont dedans, qui font, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est fabriquer ces points de vue à partir d'éléments scientifiques, à partir d'éléments professionnels. Moi, c'est ce que je fais. Et donc, je pense qu'il faut faire le même job avec l'agriculture. Il faut réussir à convaincre et certains bougent. Hein, voilà, si on regarde au-delà, d'ailleurs, il y a la FNSEA d'en haut, mais il y a la FNSEA d'en bas. Hein. Ils ne pensent pas toujours pareil. Hein, voilà, hein, entre Rousseau, qui est un capitaliste de l'agriculture, et le céréalier du coin, c'est pas exactement, ils ne sont pas alignés sur tout. Hein, ce n'est pas vrai. Voilà, donc, il faut aller aussi sur ce terrain-là. Il faut aller, voilà, donc, ce n'est pas simple. Hein. Il faut discuter, hein. On n'est pas toujours bien accueillis, voire même la coordination rurale, là, il s'attaque aux permanences de mes collègues et de manière parfois bien violente, hein, d'ailleurs. On n'entend pas grand monde dire grand-chose, d'ailleurs, là-dessus. Donc, voilà, le dialogue n'est pas simple dans ces moments-là. Mais voilà, mais moi, je veux discuter avec les agriculteurs, pas forcément avec leurs représentants, voilà, parce qu'ils ne sont pas toujours les représentants véritables de l'ensemble de la profession. Donc, il faut continuer à faire ce job-là. Et il faut que les mangeurs interrogent les producteurs. Voilà. C'est à ce prix-là qu'il y aura un changement de modèle. Voilà. C'est quand il y aura une articulation à cet endroit-là, une solidarité. C'est pour ça que je travaille sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est une manière de lier mangeurs et producteurs dans une solidarité. Voilà. Les AMAP, c'est là-dessus qu'elles ont été inventées. Donc, on a des voies quoi, pour penser autrement. Donc, la bataille, elle est là.
Du triazine et des hormones dans les bronchiètes, huile minérale, hydrocarbone ultra chloré, et du bleu de bouillie bordelaise pour décorer. Néonicotinoïde, l'imidaclopride, le clothianidine, le sulfoxaflor, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate.
Toujours avec Charles Fournier, mais ça, c'est la magie de la radio. Il y a quelques instants, nous étions fin juillet 2025 et hop, nous voici quelques semaines plus tard à la mi-août 2025. Entre-temps, il y a eu l'arrêté du Conseil constitutionnel sur la loi du plomb. Et c'était ce dont on se méfiait un peu, ce qu'on redoutait un peu, c'est-à-dire le gouvernement lâche sur l'acétamipride, mais on garde les fermusines, on garde les mégabassines, on garde le contrôle sur l'Office national de la biodiversité, on garde la tutelle du politique sur les instances scientifiques comme l'ANSES, on garde les VRP de la chimie qui restent des conseillers pour l'agro-industrie et les exploitants agricoles pris la main dans cet engrenage. Et pourtant, rappelons-le, en plein été, 2 millions de signatures contre cette loi du plomb. Toi et vous, le groupe de 38 députés du groupe écologiste sur 577, vous en êtes où ? Quelle est votre analyse sur cet arrêté du Conseil constitutionnel ?
Oui, alors d'abord, peut-être, c'est important de dire que si on veut une démocratie qui fonctionne, il faut qu'on ait à la fois des contre-pouvoirs et des autorités indépendantes. Et que nous sommes dans un pays où il y a un conseil constitutionnel dont le rôle est de vérifier que la production de la loi soit en respect des principes de notre constitution. Ça, c'est quand même très important et c'est ça son rôle. On l'appelle la chambre des sages, enfin, on les appelle les sages. Bon, ils sont neuf. Il faut aller regarder aujourd'hui un peu le profil des neuf. J'y reviendrai pour se dire, bon, mais est-ce que ce sont des experts de la constitution? Ou est-ce que c'est leur parcours qui les a conduits ici? Pour la plupart, c'est plutôt leur parcours que leur expertise en la matière. Mais je me garderai d'avoir un jugement là-dessus, parce que je ne suis moi-même pas constitutionnaliste. Pour autant, je dis ça parce que je veux distinguer le mouvement citoyen absolument extraordinaire de la décision du Conseil constitutionnel. Je ne crois pas d'ailleurs que cette décision du Conseil constitutionnel devrait être soumise à l'effet d'une pression populaire, parce que cette pression populaire, là, il se trouve que moi, je suis en plein accord avec, mais je peux trouver des tas d'exemples où je ne serais peut-être pas en accord. Et donc, je trouve qu'il faut garder cette distance-là. Et donc, le Conseil constitutionnel a fait son travail dans ce contexte-là. Pour autant, à ce stade, je ne partage pas toutes les conclusions qui ont été les siennes. Je précise qu'il a évidemment censuré l'acétamipride, et ça, c'est, je pense, une décision raisonnable, tout à fait claire, puisqu'il s'est même référé à des précédentes décisions. Là, il n'y avait aucune échéance sur la dérogation. C'était une dérogation ad vitam aeternam. Et donc, il est revenu là-dessus, et ça, c'est tout à fait normal. Il a aussi émis des réserves sur ce qu'on appelle les grandes bassines, sur leur intérêt général, pour faire court et l'expliquer de manière claire, qui serait octroyé de fait. Il a mis une réserve là-dessus, et cette réserve réinterroge quand même cette partie du texte et invitera les autorités à un regard particulier sur le sujet. Mais moi, ça ne me suffit pas. Il y a effectivement tous les autres points. Par exemple aussi, le fait qu'un certain nombre d'institutions vont être soumises à l'autorité des préfets. Je pense à l'Office français de la biodiversité qui devra rendre des comptes aux préfets et non pas devant le juge directement. Donc, il y a une confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et ça, ça pose quand même de vraies difficultés dans le fonctionnement de notre démocratie. C'est aussi ça, moi, qui me préoccupe dans un moment comme celui-là. Et puis, il y a tous les points que tu as cités qui, pour moi, ne sont en rien des progrès et surtout ne vont en rien répondre aux problématiques des agriculteurs. Quelques-uns vont tirer des bénéfices à court terme là-dessus, mais l'agriculture n'est pas gagnante. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc là, au moment où on en est, nous, évidemment, nous, on va déposer une proposition d'abrogation de la loi du plomb. Parce qu'il n'y a rien de bon dans la loi du plomb. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien qui nous permette de dire il y a un progrès qui est inscrit et ça vaut le coup d'aller au bout. Nous aurions et nous avons continué de demander au président de la République non pas de ne pas promulguer la loi parce qu'il est obligé de le faire. Voilà, il a un délai et il doit le faire. Mais par contre, il aurait pu faire revoter l'Assemblée sur ce texte. Peut-être que ça n'aurait pas changé, mais ça aurait obligé à un débat plus structuré, à un repositionnement, et chacun aurait été devant, je pense, toute une période qui a alimenté en réflexion. Et là, la pétition aurait eu son effet. Que plus de 60% des Français soient contre, finalement, les prérogatives de ce texte, et en particulier l'acétamipride, mettait quand même devant chacun devant sa responsabilité. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire ou pas de ce que peuvent penser une majorité très large des Français? Donc, ça aurait été l'intérêt d'avoir ça. Il y aura malgré tout un débat à l'Assemblée nationale parce que cette pétition a abouti à ça. Et donc, début septembre, je crois que c'est le lundi 6 septembre, ma commission va devoir nommer un rapporteur pour organiser ce débat. D'abord en commission, puis dans l'hémicycle. Donc, je serai impliqué sur cette dimension-là. Et ce débat-là, il ne va pas régler le sort de la loi du plomb. Mais par contre, il va mettre devant tout le monde tout ce qu'on partage, qui a été pas mal partagé, mais qui mérite de l'être encore. Des tas d'éléments vont être mis à jour. Ça va permettre de casser un certain nombre de fake news aussi. Quand la ministre de l'Agriculture nous explique qu'il y a l'acétamipride dans les colliers antipuces et que ça, c'est entièrement faux. Voilà, on va pouvoir remettre un certain nombre de pendules à l'heure. On parlera de l'acétamipride, mais aussi de l'autre néonicotinoïde qui est concerné par le texte, qui est passé un peu en arrière-plan. Alors son nom, j'ai du mal à le dire là, le fluoro, ça. Et puis d'une façon générale, peut-être de continuer d'éveiller collectivement les consciences et l'enjeu autour de ça, de casser un certain nombre de choses que j'ai entendues, qu'on continue d'entendre dans les arguments défavorables à cette loi Duplomb. Donc, il va y avoir ça. Évidemment, il faudra faire face à d'autres tentatives, hein, parce que Duplomb a dit qu'il n'en resterait pas là, hein, même si c'est censuré, il va chercher d'autres moyens. Et donc, du coup, grande vigilance par rapport à ça. Et la bataille pour un autre modèle agricole va continuer. Voilà, moi, mon groupe va être totalement mobilisé là-dessus. On a déjà beaucoup échangé là-dessus. Ça fera partie, évidemment, des sujets de rentrée assez déterminants.
Qu'est-ce que tu penses du 10 septembre ?
Alors, justement, c'est marrant, la question m'était posée. Je dois dire, bon, là, moi, j'arrive un peu de mes montagnes, puisque j'ai pris quelques congés. Je vois cet appel à bloquer le pays. Moi, j'ai toujours besoin, quand il y a un appel, c'est de savoir d'où ça vient et qui ça réunit. Donc, à ce stade, je ne sais pas. Donc, j'ai besoin de creuser. Je n'ai pas de préjugés. Je lis ici que peut-être ça pourrait être infiltré aussi par l'extrême droite. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, que c'est un mouvement protéiforme. L'heure est évidemment à la résistance face à l'austérité budgétaire qui nous est proposée. Mais de la même manière, j'ai toujours, moi, je me dis « Ok, peut-être je participerai à ce mouvement-là, mais je m'intéresserai, et c'est ma responsabilité, au débouché politique d'un tel mouvement. » Parce que sinon, il n'en reste que les aspects dramatiques, les yeux perdus, les gens blessés. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais c'est quoi la suite? Et donc, c'est là où j'ai quelques questions et que je ne suis pas juste là à me dire, bah oui, paf, allons-y, c'est là que va se mener l'opposition. Donc là, pour l'instant, je suis dans un état où je veux vérifier ça. Je veux regarder la manière dont les organisations syndicales vont se saisir ou pas de ça, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une convergence pour que c'est du sens. Un cadre aussi commun qui va être donné. Et puis, j'attends de voir que ça soit une démarche unitaire pour construire quelque chose. Voilà. Et pas simplement un mouvement spontané pour dire on va bloquer parce que ras-le-bol. J'estime en tout cas que ma responsabilité, elle est de tirer les fils de ça. Il est normal que le ras-le-bol s'exprime, mais je veux savoir ce qu'on va construire derrière. Voilà, donc c'est toutes ces questions que j'ai. Donc pour l'instant, je n'ai pas pris position, mais je sais qu'il y a des forces politiques qui l'ont fait. La France Insoumise s'engage dans ce mouvement, m'interroge là-dessus. Voilà, donc moi, j'ai besoin d'un petit cheminement là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on est dans un moment où ce qui s'annonce dans les propositions de Bayrou pose quand même des problèmes absolument énormes. Encore une fois, s'attaquer toujours aux mêmes, avec un refus total de travailler à la justice fiscale, à la justice sociale dans notre pays. Et ça, il y a une forme de saturation extrêmement grande, et que les plus précaires, les plus précarisés dans notre pays, bah oui, ce ras-le-bol, il est là. Et donc, voilà, maintenant, il faut lui donner un débouché politique. Sinon, ça finit pas bien, ces affaires-là. J'ai envie que ça enclenche. Et le débouché politique, c'est pas telle personne ou telle personne. Voilà, je le dis clairement, le débouché politique, c'est quelle unité, quelle reconstruction, quelle transformation profonde de notre société. C'est ça qui est pour moi le plus important dans un moment comme celui-là.
Bonne rentrée à toi et bon courage pour cet automne et les temps à venir.
Merci beaucoup, merci à toi. La rentrée va être chaude, c'est sûr, quoi qu'il se passe.
Et voilà les amis, l'automne s'annonce chaud. Mais pour l'heure, c'est ici qu'on va clore cette nouvelle émission sur la loi du plomb et les ravages de l'agro-industrie. À télécharger via notre site Polymix et la voix off.com avant qu'on ne se retrouve très vite sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
J'ai vendu des pesticides sans savoir que c'était de l'acide. J'avais le torse velu. J'aurais sacrifié le premier venu. Me faire une place grasse,
bien grasse.
C'était trop blanc, c'était trop blanc. Cette impression d'être dans le temps, faire un bleach pour faire un putsch. La beauté usée des beaux, fait bien des bobos chez les bobos. Pendant que les prolos sur le burnous, avant la boue de la loupe. Moi je vends des produits chimiques qui donnent des réactions allergiques et des injonctions paradoxales. On souffre, on gémit, on râle. Putain fou, qu'est-ce que tu fais? Fausse route chimiste de misère, le temps passé dans la gouttière. Adieu le bronze, adieu la trique, bonjour la phytomécanique. T'as bouffé des pesticides, laver pelé c'est toujours de l'acide. T'as bouffé des pesticides, laver pelé c'est toujours de l'acide.